Radio Libertaire 89.4, la voix sans Dieu, sans maître et sans publicité, la radio libre de la Fédération anarchiste. Et c'est l'entonnoir, émission critique de la psychiatrie. Et aujourd'hui, nous sommes avec André Bitton, président de l'association CRPA, le Cercle de Réflexion et de Proposition d'Action sur la Psychiatrie. Bonjour André.
Bonjour à tous, bonjour à toutes. Alors, je vais faire une intervention à cette émission sur trois points. Tout d'abord, c'est centré sur le dérobondissement dans l'affaire de M. Romain Dupuis, qui a 40 ans, je pense, maintenant, et qui a été l'auteur du double crime à l'hôpital des Pyrénées de Pau en décembre 2004. Deux infirmières qui l'ont assassiné, malheureusement, n'est-ce pas ? Ce qui a marqué un tournant, puisque cette affaire, un tournant à l'histoire de la psychiatrie française, puisque cette affaire a été utilisée par les sarkozystes qui commençaient à être au pouvoir. Hein. Nicolas Sarkozy était ministre de l'Intérieur. Dans le cadre d'une propagande, hystérique et sécuritaire contre les malades mentaux en général, avec un plein amalgame à la tête de 2005. Bien. Donc, il est interné à l'unité pour maladies difficiles de Cadillac-sur-Garonne depuis le début de l'année 2005. Et dans le cadre d'un conflit juridique pour un élargissement partiel, dans lequel il est conseillé par maître Hélène Leca, avocate, et maître Serge Portelli, ancien magistrat, le tribunal des conflits a statué le 3 juillet passé par une décision très importante d'orientation vers la juridiction judiciaire, d'attribution de compétences à la juridiction judiciaire sur le soin, attribution à la juridiction judiciaire, de trancher sur les demandes des internés en unité pour maladies difficiles, qu'ils soient transférés de l'unité pour maladies difficiles vers une unité classique d'un hôpital psychiatrique, voilà. Donc jusqu'à présent, il n'y avait pas de juge qui se déclarait compétent. Ces affaires de transfert d'une unité à l'autre étaient considérées comme des affaires internes aux établissements et internes au circuit, ne relevant pas d'un contrôle judiciaire. Alors auparavant, il nous est parvenu par maître Hélène Leca une protestation, c'est pas la première fois d'ailleurs, des internés de l'unité Moreau, de l'unité pour maladies difficiles de Cadillac sur Garonne, par lettre du 28 juin 2023, maître Hélène Leca répercute la dénonciation écrite des pavillonnaires de l'unité Moreau de Cadillac sur Garonne, de l'UMD de Cadillac. Alors, monsieur le ministre, je vous lis cette lettre. Monsieur le ministre, je me permets de venir vers vous au sujet de mon client, monsieur Romain Dupuis, lequel m'a transmis un courrier à votre attention, et je vous remercie par avance de bien vouloir non seulement prendre connaissance de ce courrier, mais également de mesurer la teneur et les conséquences du contenu de ce courrier. Cette lettre est co-signée des 11 autres patients de l'unité pour malades difficiles Moreau de l'UMD Cadillac, dans lequel monsieur Dupuis est arbitrairement maintenu. Ce courrier co-signé des patients de l'UMD Moron en date du 24 juin 2023 fait suite à leur précédente alerte et dénonciation des conditions délétères et de prise en charge tant pour eux que pour les soignants, un courrier du mois de d'août 2022. Ces mêmes patients ont également adressé un courrier à Mme Dominique Simonneau, contrôleur général des lieux de privation de liberté, que vous trouvez joint à toute fin utile. La lecture de ces deux alertes vous permettra, je l'espère, de mesurer la situation catastrophique qui règne dans ces privations de liberté psychiatrique. À titre d'exemple, en ce qui concerne plus particulièrement mon client, qui est, il convient de le rappeler, maintenu arbitrairement dans cette UMD depuis le 11 janvier 2018, première fois où la commission de suivi médical avait statué en faveur du transfert en pavillon classique de M. Dupuis, c'est dès la sortie thérapeutique, ce lien à la vie ordinaire remonte en famille au mois de janvier 2023, à Bordeaux, sorti 2 heures à la patinoire en février 2023. Quant au bruit récurrent, mais démenti à minima par l'administration de Cadillac au sujet de la fermeture à venir de 2 des 4 unités de l'UMD, 2 des 4 pavillons, 2 des 4 biens, il nous est indiqué tantôt une fermeture imminente, et dans ce cas, quid des répartitions des patients, et plus spécialement du mien, ou tantôt celle-ci est prétendument reportée à 2027. Si effectivement dans l'unité Moreau, qui peut contenir 19 patients, mais n'en comporte à ce jour que 12, il n'en demeure pas moins que le manque de personnel abîme un peu plus ces malades, qui ne disposent à ce jour d'aucune perspective de sortie thérapeutique durant tout l'été. Ces deux lettres en date du 24 juin 2023 succèdent à la précédente dénonciation des 10 patients en date du 29 août, qui avait été notamment adressée à votre ministère, à l'ARS et à la direction du CH de Cadillac. À noter qu'à l'époque, ils étaient 17 patients signataires au sein de l'unité Moreau, dont plusieurs ont pu sortir et être transférés, mais pas M. Dupuis. Vous trouverez en PJ numéro 4 les seules réponses apportées par la direction de Cadillac ainsi que par l'ARS à leur détresse, alors même que les psychiatres ont soutenu et dénoncé cette démarche PJ numéro 6, au même titre que les syndicats de soignants de Cadillac. En effet, ces récriminations sont appuyées par les syndicats hospitaliers de l'hôpital de Cadillac, notamment par la CGT. J'adresse ce jour le courrier co-signé des patients à l'attention de la CGLPL. Si j'ai la satisfaction en ce qui concerne mon client de voir arriver la décision du tribunal des conflits prévue le 3 juillet prochain, qui signera enfin la fin du délit de justice et d'internement d'exception, enfin ça, M. Dupuis ne sera pas libéré pour autant, le juge judiciaire peut statuer sur sa demande de transfert, c'est tout, hein. Ça ne veut pas dire qu'il va faire droit à sa demande, hein. Ça, j'en parlais plus amplement. Je constate amèrement qu'au même titre qu'il me semble représenter pour l'opinion publique le rebut de l'humanité, la psychiatrie m'apparaît aujourd'hui être le rebut de la médecine, tant personne ne mesure le manque de moyens. Comptant et espérant une action rapide de votre part, etc., etc. Alors, cette protestation où il est constaté un vidage du nombre de patients de l'UMD, de l'unité Moreau, cela correspond également à la montée en puissance des USIP. La multiplication des USIP dans les établissements psychiatriques, les unités de soins intensifs en psychiatrie, bien, lesquelles ne connaissent pas de texte réglementaire contraignant. Les UMD sont régis par un décret, donc ça suppose un minimum de personnel, ça suppose, il y a du cadre. Tandis que les USIP, il n'y a pas de cadre. Alors la multiplication expérimentale des unités de soins intensifs en psychiatrie, qui sont des petites UMD en fait, hein, voir 12 jours le vinatier, voir ces choses-là, bien, pour l'instant, ça se fait dans un vide textuel et juridique, mais les praticiens de ces UMD ont formé récemment une association, bien, en vue de mettre en commun leur expérience, et ont proposé en début de mois de juin, il y a un mois, un référentiel au pouvoir public qui serve de maîtrise pour un futur texte réglementaire pour les USIP. Et cela en parallèle où depuis longtemps, et ça nous on avait agi, notamment devant le Conseil constitué dans les travaux parlementaires, depuis longtemps, les hospitaliers se plaignent qu'il n'y a pas assez d'unités pour malades difficiles en France. Et réclamaient qu'il soit construit plus, plus d'unités pour malades difficiles. Or, l'on voit que si le gouvernement et les pouvoirs publics peuvent se contenter du nombre actuel d'unités pour malades difficiles, il est encouragé de multiplier les USIP, les unités de soins intensifs en psychiatrie, hors texte, hors cadre, puis on demande une régularisation. Et là, ça devient douteux. Et là, parce qu'on comprend bien que monsieur Romain Dupuis, qui peut d'ores et déjà revenir devant la cour d'appel de Bordeaux, autrement composée, et demander qu'il soit fait droit à sa demande de transfert. dans une unité classique, d'un hôpital psychiatrique classique, alors que personne ne veut de lui, parce que personne ne veut avoir à gérer cette affaire très douloureuse et historiquement très importante du double crime de Pau, où deux infirmières, une infirmière et une aide-soignante, sont sauvagement assassinées par lui quand même, et on n'en veut pas, quoi. Et donc, ça ne veut pas dire qu'une juridiction judiciaire va faire droit à sa demande. Ce n'est pas ça. Ils peuvent très bien botter en touche et dire non, ce n'est pas possible, on ne va pas prendre cette responsabilité. Mais ce que je veux dire, c'est que dans l'hypothèse où il y a un transfert, il sera transféré d'une unité pour malades difficiles à une petite unité pour malades difficiles non cadrée textuellement, ou les pratiques n'étant pas encadrées, il peut se passer n'importe quoi. Et ça, c'est les USIP. Et il n'y a qu'à voir notre dernière conf, l'avant-dernière conf débat, où il y avait eu notamment le docteur Jean-Michel Kahn qui s'était plaint de ce qui se passait à l'USIP de Prémontré quand il y avait travaillé. Donc on voit que ce n'est pas simple, hein, cette histoire. Donc je donne écho à cette protestation. Alors venons-en à la décision du 3 juillet du tribunal des conflits. Alors, le résumé de cette décision de conflit du 3 juillet, c'est que le tribunal des conflits a pris la décision d'orienter, d'attribuer autoritairement, hein, parce que c'est un haut tribunal qui, lorsqu'il y a conflit entre juridictions, ni une juridiction judiciaire ne veut d'une affaire s'estimant pas compétente, ni la juridiction administrative ne veut de cette même affaire s'estimant non compétente. Ou inversement, quand les deux ordres de juridiction se déclarent compétentes et qu'on ne sait pas quel est l'ordre de juridiction qui doit trancher. Puisque en France, on connaît une juridiction de droit commun qui est la juridiction judiciaire couverte par la Cour de cassation, et une juridiction de l'État, des établissements publics et de l'administration, la juridiction administrative qui est couverte par le Conseil d'État. Le Conseil d'État et la Cour de cassation étant deux cours suprêmes de chaque ordre de juridiction. Bien. C'est parce que la France connaît un reliquat d'Ancien Régime où, avant la Révolution française, il y avait le Conseil du Roi, bien, qui n'était pas une juridiction ordinaire, bien, et qui est devenu, avec Bonaparte sous le Directoire en 1799, le Conseil d'État. Et les prérogatives du Conseil d'État juge administratif ont été, sont devenues des prérogatives contentieuses à partir d'un arrêt de principe, l'arrêt Prince Napoléon, je crois, de 1872, où le Conseil d'État, donc la juridiction administrative, devient une juridiction contentieuse qui tranche sur des contentieux. Alors qu'auparavant, elle ne faisait que conseiller le prince et donner des avis. Bien. Et depuis l'après-deuxième guerre mondiale, avec le déploiement des tribunaux administratifs, puis après, dans les années 80-90, des cours administratifs d'appel, c'est une véritable efflorescence d'ailleurs, avec les états d'urgence successifs depuis 2015, les prérogatives de la juridiction administrative ont été considérablement renforcées, puisque le juge légal, le juge statué au plan parlementaire des états d'urgence, c'est la juridiction administrative. Ce n'est pas la juridiction judiciaire. Donc, en fait, on a un renforcement en France de cette espèce de juridiction à part, qui est un corpus doctrinal et jurisprudentiel tout à fait particulier, la juridiction administrative, qui n'est pas un juge de droit commun. Alors que les Américains et les Britanniques, dès le début, ont dit l'administration, l'État, les chefs d'État, les établissements publics, ça relève de la juridiction de droit commun. Il y a une seule et même juridiction. Donc, mais ça, c'est le cas particulier de la France. C'est ce qu'on appelle le jacobinisme français. Le jacobinisme français, c'est ça. Hein, c'est... Voilà. Et cela fait d'ailleurs que la juridiction administrative, qui a une jurisprudence à part, a développé un corpus jurisprudentiel qui protège l'État et les administrations, qui protège le prince, en fait. Hein. Et en même temps, on s'aperçoit sur un ensemble de terrains que c'est quand même une juridiction à la base qui a pris des arrêts de principe très importants pour les libertés individuelles. C'est assez paradoxal, hein, quand même. Donc bref, le tribunal des conflits, dans sa décision du 3 juillet, a décidé d'attribuer au juge judiciaire la compétence de trancher sur l'ensemble des demandes. Des demandes, hein. C'est pas un contrôle judiciaire obligatoire, c'est un contrôle sur demande. Des demandes des intéressés ou de leurs proches de statuer sur les demandes en contestation d'admission en UMD quand on leur refuse la sortie et quand on refuse un transfert. L'ensemble devient de la compétence du juge judiciaire, en l'espèce du juge des libertés et de la détention. Donc en fait, le tribunal des conflits a décidé de judiciariser les demandes de transfert d'une unité pour malades difficiles vers une unité classique d'un établissement psychiatrique et a ouvert une voie de recours qui était inexistante jusque-là. Parce qu'on ne pouvait pas recourir. On ne pouvait tout simplement pas recourir puisque M. Dupuis, qui ne pouvait pas décemment demander la levée de sa mesure. C'était juste pas possible. Un double crime horrible, c'est juste pas possible. Mais a demandé avec réitération son transfert en unité classique, s'est vu opposer qu'il n'avait pas de juridiction compétente pour cela. Il n'est pas de juge. Donc en fait, cette décision du tribunal des conflits est pour le moins importante et c'est le début de la judiciarisation, qui devrait être obligatoire, le début de la judiciarisation des décisions d'admission comme de sortie, comme de transfert d'unité pour maladie difficile. Donc en fait, cette décision du tribunal des conflits revêt une importance extrêmement grande puisque c'est un pas en avant vers un contrôle judiciaire des admissions comme des sorties d'unité pour maladie difficile. Et donc cette décision est historique.
Voilà. Il reste malgré tout donc des zones encore grises dans la psychiatrie.
Alors,
on
oui.
parlait des USIP.
Oui. Alors plus exactement, cette zone grise, cette zone de non-droit qui était les UMD, zone de non-droit. Et alors on ne peut plus parler de zone de non-droit pour les UMD. Depuis la décision QPC du Conseil constitue 20 avril 2012 CRPA, puisqu'elle portait là-dessus, et qu'une partie de la réforme du 27 septembre 2013 a porté là-dessus. En plus, il y a eu du contentieux Conseil d'État. Cette zone de non-droit, cette zone grise, se déplace des UMD, puisque les UMD sont de plus en plus sous les projecteurs, et connaissent une entrée du droit et un début de contrôle judiciaire et des travaux parlementaires vers les USIP. Les unités sont intensives. Et là, on voit que ces messieurs-dames qui travaillent, agencent, coordonnent et dirigent le milieu psychiatrique n'ont pas intérêt au plein feu juridictionnel. Ils ont intérêt à continuer leur, j'en dirai pas plus, dans l'ombre et dans le secret. Parce que ça s'épanouit bien. Donc revenons à cela. Donc le tribunal des conflits a pris lundi 3 juillet une décision importante et très attendue dans l'affaire de la demande de M. Dupuis que son transfert de l'UMD de Cadillac sur Garonne vers une unité psychiatrique classique soit décidé par le juge des libertés de la détention. Cette demande de transfert, malgré plusieurs avis favorables de la commission de suivi médical depuis 2018, avait été jusque-là systématiquement rejetée par la préfecture. Si une ordonnance de sortie avec transfert avait été prise par JLD de Bordeaux le 9 juin 2022, cette décision avait été retoquée par la cour d'appel le 17 juin 2022. Les deux ordres de juridiction judiciaire et administrative avaient décliné leurs compétences, celles-ci n'étant pas expressément prévues par le législateur dans le cadre de la loi du 5 juillet 2011, modifiée le 27 septembre 2013, qui avait judiciarisé les décisions de maintien en hospitalisation sans consentement. Le tribunal des conflits avait donc été saisi par décision du tribunal administratif de Bordeaux le 4 avril 2023, afin qu'il soit tranché sur la juridiction compétente à connaître des demandes de transfert d'une UMD vers une unité classique d'un établissement psychiatrique. Dans sa décision du 3 juillet, le tribunal des conflits a donc décidé de judiciariser les demandes des intéressés ou de proches en contestation des décisions d'admission en UMD, de rejet des demandes de sortie de ces unités, qu'il s'agisse de demandes de sortie sèche ou de demandes de transfert. Car l'on peut demander à être en sortie sèche d'une unité pour malades difficiles. Ça avait été reconnu notamment par le décret 2016 qu'on avait attaqué au Conseil d'État et sur lequel on avait obtenu un soit dit en passant très intéressant, à savoir que la défense d'un interné en UMD, le conseil, l'avocat, peut demander à être entendu devant la commission de suivi médical, commission d'experts, lorsque celle-ci se réunit, ce qui était un pas en avant. Donc il reste qu'il y a plusieurs juges judiciaires, et c'est là où on risque d'avoir une partie de ping-pong qui continue entre les différents magistrats, le juge des libertés de la détention, le juge des référés, le juge indemnitaire. On verra sans doute prochainement des décisions de rejet prises par des juges des libertés de la détention au motif que le requérant a trop de passifs pour être libéré ou transféré, mais qu'il peut se pourvoir devant le juge de l'indemnisation s'il estime que son internement en UMD a trop duré et qu'il est entaché d'irrégularité de droit. C'est pas exclu qu'il y ait du ping-pong entre différents juges. L'un disant « moi je ne vais pas prendre cette responsabilité, j'envoie vers l'autre ». Quoi qu'il en soit, les demandes de sortie du UMD avec transfert en établissement classique ne pourront plus être rejetées pour cause d'incompétence de la juridiction saisie. Alors, Ospimedia avait fait une synthèse de cela qui était vraiment très intéressante, reprenant une partie de l'analyse que... j'avais fait. Alors, il y a un paragraphe qui me paraît intéressant dans cette dépêche, c'est le suivant. Des étapes encore à franchir. Contacté le 10 juillet par Aspi Media, maître Hélène Lecas salue la fin d'un déni de justice, une victoire du droit pour Romain Dupuis, mais également pour tous les autres patients. En effet, souligne-t-elle, cette décision est également satisfaisante pour les patients hospitalisés sous contrainte en psychiatrie, car elle unifie le contentieux en la matière en la confiant au seul juge judiciaire garant des libertés individuelles. C'est une étape décisive, mais il reste à franchir. L'étape qui reste à franchir, c'est le dossier Romain Dupuis est renvoyé en cour d'appel. Que va dire cette fois le juge ? Moi, je ne vois pas un magistrat judiciaire prendre cette responsabilité d'ordonner un transfert alors qu'aucun hôpital psychiatrique ne veut de ce patient et que, par ailleurs, je persiste à dire, et je ne suis pas le seul, qu'en cas de transfert dans une unité de soins intensifs psychiatriques, d'abord, M. Romain Dupuis sera plus maltraité, vraisemblablement, qu'il ne l'est en UMD, parce que les USIP sont moins balisés et moins contrôlés que les UMD. Ensuite, qu'il y a toujours un risque de représailles sur ce patient, parce qu'il a tout de même assassiné deux personnels.
Mais un transfert vers une unité classique, est-ce que ça passe obligatoirement par une USIP ?
Ben, oui, non, pas nécessairement. Pas nécessairement, mais... personne ne prendra la responsabilité. Ce qu'il faut bien voir, c'est que la désaffection et la crise de la psychiatrie est telle, avec la crise des refus d'embauche, que moins il y a de personnel dans une unité, plus les gens sont maltraités.
C'est un fait, oui.
Voilà. Donc, comme c'est dans les unités fermées et carcérales, et les plus carcérales, qu'il y a le plus de personnel, voilà, d'une part. D'autre part, alors il est exact qu'un des grands intérêts de la décision du tribunal des conflits et de l'affaire Romain Dupuis, c'est qu'il s'agit bien d'une demande de transfert. Or, jusque-là, et c'est pour ça qu'on a la construction d'un droit jurisprudentiel des unités pour maladies difficiles, hein, finalement, parce que c'est une construction jurisprudentielle. Jusque-là, il était considéré que ces affaires de transfert d'une unité à l'autre dans un hôpital, parce que, bon, une UMD, c'est au sein d'un établissement psychiatrique, c'est du droit interne. C'est des procédures internes qui ne portent pas grief. On ne va pas faire du contentieux sur un transfert d'unité à l'autre. Et là, ce qui est intéressant, c'est qu'on a une percée, puisqu'on vient nous dire que sur une demande de transfert, par exemple au sein même de l'hôpital de Cadillac-sur-Garonne, de l'UMD à l'USIP de Cadillac-sur-Garonne ou même d'un pavillon interne, un JLD peut statuer. Mais donc cela veut dire que, également pour d'autres patients, que si vous êtes interné à une unité classique, qu'on estime que vous foutez le bazar, qu'on va vous transférer dans une unité de soins intensifs fermée, puis de là, si vous continuez à foutre le bazar parce que votre tronche ne plaît pas, dans une USIP, etc., etc., ces affaires de transfert qui sont disciplinaires relèvent de la compétence du JLD. C'est intéressant. Alors là-dessus, oui, effectivement, il peut être transféré dans n'importe quelle unité, mais la question n'est pas là. La question n'est pas là, c'est qui va prendre cette responsabilité ? Puisque ce dossier, c'est par essence le dossier sarkozyste de 2005 et de Rachida Dati. Puisque la réforme de l'irresponsabilité pénale très importante de 2008, peaufinée récemment en 2022 par la réforme Dupont-Moretti sur le fond de l'affaire Sarah Halimi, cette réforme du 25 février 2008, elle est aussi appelée loi Rachida Dati sur les médicaux légaux. Donc voilà, alors l'article de Libération qui avait participé à initier la médiatisation de cette affaire est assez intéressant. Libération s'est fendue d'un article pas trop moche, hein, bien. Alors bon, après 5 ans d'imbroglio juridique, le tribunal des conflits vient de trancher en faveur du juge des libertés de la détention. Une décision pleine d'espoir pour l'homme de 39 ans interné après un double meurtre atteint de schizophrénie, celui-ci s'étant déjà montré favorable à son transfert dans un service classique de psychiatrie. Enfin, par une juge de Bordeaux. Alors, ce que je trouve intéressant dans cette entête, c'est qu'au contraire de l'article d'hier de Mediapart sous la signature de Michel Deléant, Michel Deléant, il ne va pas par quatre chemins, le schizophrène, Mais non, là, il est mis, cet homme de 39 ans, atteint de schizophrénie. On lui a pas retiré son humanité. Ouais. Bon, c'est déjà ça. Alors, un peu plus loin de cet article de Libération, c'est la fin d'un éreintant ping-pong pour Romain Dupuy, l'homme de 39 ans, interné après avoir tué une infirmière et une aide-soignante à l'hôpital de Pau, dans la nuit du 17 au 18 décembre 2004, aspire depuis 5 ans à un assouplissement de son régime psychiatrique. Les médecins considèrent en effet que l'état de santé mentale de ce malade schizophrène, déclaré irresponsable pénalement, n'exige plus qu'il reste à l'unité pour malades difficiles de Cadillac-sur-Garonne. Mais depuis 5 ans, Romain Dupuy est pris dans un imbroglio. Juge judiciaire et administratif se renvoie la responsabilité statuée sur sa demande de transfert dans une unité de soins psychiatriques ordinaires, chacun au motif qu'il serait incompétent. Donc, compétence tranchée. Bon, donc, dans cet arrêt du tribunal des conflits, je reviens dessus, on note la présence très intéressante de la Ligue des droits de l'homme intervenante avec son avocat, Maître Spinozzi, dont cette présence, dont j'ai pu dire à l'avocate de Romain Dupuy, Maître Hélène Lequin, qui est collaboratrice et associée avec l'ancien magistrat Serge Portelli. Ah, la Ligue des droits de l'homme présente, c'est vraiment très bien, c'est d'un chic. Enfin, les étages nobles des immeubles haussmanniens de Paris, de Bordeaux, d'Alger, d'Oran, de Casablanca, de Cotonou et de Tamanrasset sont présents et représentés. Vraiment, c'est d'un chic. Encourageons-les. Enfin, les internés psychiatriques sont à la mode.
Allez, une plage musicale avec HK et les Saltimbanques.
Thank you. impressionnables par tous ces gens déraisonnables, vendeurs de peur en abondance. Sachons les tenir à distance, angoissant jusqu'à l'indécence. Pour notre santé mentale, sociale et environnementale, nos sourires, notre intelligence. Ne soyons pas sans résistance, les instruments de leur démence.
Radio Libertaire 89.4, la voix sans Dieu, sans maître et sans publicité. On vient d'entendre HK danser encore. Et c'est toujours l'Entonnoir, émission critique de la psychiatrie, avec André Bitton et le CRPA.
Alors, une deuxième partie pour cette émission. Il y a eu deux dépêches de Hospi Média du 7 juin et du 19 juin. Tu as attiré notre attention, j'en ai parlé avec Mathieu Vélassel notamment, d'autant plus qu'un arrêté était publié en début d'année 2023, un arrêté publié au JO. Hein. Tous les arrêtés ne sont pas publiés au journal officiel, puisque les arrêtés dans la hiérarchie des normes, les arrêtés ministériels, relèvent quand même, peuvent relever du simple bulletin officiel. Et cet arrêté disait que dans l'autorisation, c'est dans le chapitre du Code de la santé publique sur les autorisations d'exercer par discipline et en l'espèce, que des UMD pouvaient être érigés sur des sites non autorisés à la psychiatrie. Des unités, c'est un arrêté disant, du mois de janvier je crois, publié au JO, que une unité pour maladie difficile, une nouvelle unité pour maladie difficile peut être construite, érigée sur un terrain hospitalier, bien sûr, non autorisé pour la psychiatrie. D'accord ?
Oui, c'est
attendez.
C'est très étrange, mais...
n'est-ce pas ? Et là, donc, on apprend par une dépêche du 7 juin 2023 qu'une fédération nationale des soins psychiatriques intensifs s'est constituée. Or, il y a deux sortes d'unités intensives en psychiatrie. Vous avez l'unité de soins intensifs qui est, par exemple, quand vous êtes admis en psychiatrie à votre demande en régime libre, pour des raisons bizarres et incongrues qui sont extra-légales d'ailleurs, puisqu'on n'a pas le droit de vous retenir en milieu fermé, alors vous êtes en régime libre, on vous envoie d'une unité de soins intensifs SAS d'accueil, où vous êtes gentiment bouclé, médiqué sous contrainte, vous n'avez pas intérêt à être récalcitrant, sinon on transforme le régime, n'est-ce pas ? Éventuellement, on vous balance dans une unité semi-ouverte, où vous continuez votre prétendu soin, en étant aussi maltraité que possible, ça vous fera les pieds, ça vous dissuadera de revenir chercher des soins. Et puis, il y a cela, l'unité de soins intensifs classique et l'unité de soins intensifs psychiatriques, l'USIP, où là sont concentrées les chambres d'isolement, le matériel de contention, et qui sont... ça devient un préambule d'une chambre de torture. Enfin, les hôpitaux psychiatriques sont redevenus devenus ce qu'ils étaient à la base, une sorte de colonie pénitentiaire psychiatrique. Vous voyez ? Donc, bref, une fédération nationale des soins psychiatriques intensifs s'est constituée afin de soutenir la reconnaissance de la spécificité des USIP, des unités de soins intensifs en psychiatrie. Une association à vocation nationale a été créée. Elle est ouverte aux professionnels psychiatres et infirmiers exerçant dans ces unités, afin de croiser leurs expériences et de potentialiser leur... voilà, etc. Alors on voit que c'est gentiment dirigé par une psychiatre bien d'un, avec un visage très accorte, un peu maternel, posant bien pour la photo. Alors que le statut d'unité de soins intensifs reste encore à définir, ces unités n'ont pas de statut textuel, hein. Le développement de ce type d'unité suscite actuellement un vif débat au sein des acteurs de la psychiatrie, avec une bronca, notamment une bronca des syndicats, notamment, bah pour en appeler soit une régularisation, soit, bon, ça n'a pas lieu d'être, quoi. Dans ce contexte, plusieurs professionnels de différentes régions ont pris l'initiative de constituer une association visant à soutenir et accompagner la reconnaissance de la spécificité des USIP selon des statuts que la rédaction de Spimedia a pu consulter. Cette nouvelle organisation a son siège social dans l'Hérault, Fédération française des soins psychiatriques intensifs. Bien, son siège est au CHRU de Montpellier, en Hérault. C'est un groupe de pression, hein. C'est un groupe de pression, il faut être clair. Hein. Selon ses statuts adoptés début mars, la fédération a également pour objet de soutenir les professionnels et les missions de toutes les USIP. Les professionnels y exerçant peuvent être membres de l'association. Elle entend favoriser et initier le développement de réflexions et de recherches sur l'amélioration de l'offre de soins intensifs et sécurisés en psychiatrie. On ne cherche pas à améliorer, à humaniser les soins, à améliorer la prise en charge des patients, et donc à l'humaniser. On cherche à améliorer l'offre de soins intensifs et sécurisés. Antérieurement, il y avait, je suppose qu'il y a toujours, des formations pour mieux contentionner les malades, en se déculpabilisant. Donc le bureau de cette fédération, bon, un médecin psychiatre de la filière psychiatrie légale, bon, voilà. Et la vice-présidente, ah oui, c'est Madame Clémence Biède, médecin psychiatre, responsable de l'USIP du Vinatier. Cette unité de soins sécurisés qui est terrifiante, hein, d'ailleurs. Au Vinatier, ils ont tout. Ils ont une USIP, unité de soins intensifs, une UMAP, unité pour les malades agités perturbateurs, une unité pour malades difficiles et une UHSA. C'est un site extrêmement agréable à fréquenter. Si des gens veulent faire du tourisme psychiatrique, il faut leur recommander. Alors, les commentaires, alors, suite à cette dépêche, alors, Brigitte Frosio, une soignante, comme d'habitude, pas de psychologue. Les sciences humaines disparaissent au bénéfice des techniques, au profit des techniques de soins, même en psychiatrie. Éric Oziol, un professionnel, un soignant, l'urgence, toujours d'urgence, encore d'urgence, mais en sortir devient de plus en plus difficile. Développer le vivre ensemble de la santé mentale et les accueils de jour est la véritable urgence. Redécouvrons la psychiatrie institutionnelle chère à Toscaïès et à Houry. Dans un monde où penser se réduit si souvent à cocher des cases et où l'accueil du singulier est de plus en plus écrasé, il y a encore des lieux qui ne cèdent pas, qui tentent de maintenir vivante la fonction poétique de l'homme et du langage. Citation du générique de l'excellent film documentaire sur la Damance. Moi, je suis très réservé sur ce film. Enfin bon, c'est déjà mieux que rien. Alors Fabien Carayol, un autre soignant, il est bien dommage que l'on avance encore dans ce sens. L'avenir est à l'ambulatoire, pas à la coercition. On a deux avenirs. On a deux avenirs qui sont là. L'intra-hospitalier, c'est la coercition. Et le reste, c'est ce qu'on peut faire en ambulatoire. Et cela suppose des réseaux alternatifs, d'ailleurs, à titre obligatoire. On ne peut pas faire autrement. Ma réaction, c'est un pur scandale. Il s'agit de régulariser, voire de légaliser ces structures, faute qu'on ait pu multiplier les UMD. Comme les USIP sont de simples services des établissements psychiatriques dans le cadre du développement des filières d'hospitalisation, aucun texte d'appui n'est nécessaire. Jusqu'à ce qu'une régularisation intervienne dans quelques années, on ne peut que dénoncer la carcéralisation des hospitalisations psychiatriques, d'autant que les personnes en service libre sont admises dans les USIP. C'est véritablement scandaleux. Cela bafoue les textes. Le régime libre, ce qu'on doit rappeler et ce qui est plus que jamais bafoué, c'est qu'une personne en hospitalisation psychiatrique libre est sous un régime de droit commun, qui est exclusif de la contrainte. Alors là-dessus, autre dépêche du 19 juin, des travaux sont lancés pour un référentiel des unités de soins intensifs en psychiatrie. Alors que les unités de soins intensifs en psychiatrie sont encore en attente d'un encadrement législatif et ou réglementaire, des professionnels concernés lancent des travaux en vue de proposer un référentiel ou une charte relative à ces unités. Et c'est là où on en arrive à une vieille habitude du milieu psychiatrique, qu'on prenne les chambres d'isolement. Les chambres d'isolement n'avaient pas d'encadrement, enfin, la mise à l'isolement n'avait pas d'encadrement à valeur normative. Il y avait, avant la traçabilité instaurée par la loi du 26 janvier 2016 sur un amendement, dans la loi Touraine, sur un amendement du député Denis Robillard, instaurant la traçabilité d'ailleurs, il y avait un guide de l'ANAES, l'ancêtre de la HAS, de juin 1998, qui était un simple guide, qui était, ben là encore, c'est un référentiel. C'est un référentiel, un simple guide. Alors, on est passé d'une absence de texte à un référentiel, puis à un moment donné, il y a une généralisation de ces pratiques, et là, on aboutit à un texte réglementaire ou normatif, carré et net, législatif. Donc, c'est là où, franchement, on se pose des questions hein, sur la pente actuelle de la psychiatrie. À l'occasion donc, d'une journée des nationales unités de soins intensifs en psychiatrie au CHU de Montpellier, des professionnels exerçant en usine dans plusieurs régions françaises ont lancé le 15 juin des travaux en vue d'aboutir à des propositions pour un référentiel ou une charte qui tendrait à encadrer le fonctionnement de ces unités. Cette initiative vise à répondre à des enjeux importants pour cette offre de soins qui fait l'objet de vifs débats et controverses. Le développement de ces unités qui ne sont toujours pas encadrées dans des textes législatifs ou réglementaires ou infra-réglementaires d'ailleurs, parce que un référentiel qui va être validé par la HAS, est infra-réglementaire. Oui, c'est toujours cette même affaire. Les textes opposables pour des tiers, pour le public, c'est les textes réglementaires normatifs, soit des décrets ou les textes législatifs, soit l'un, soit l'autre. Maintenant, des arrêtés, des référentiels, des simples circulaires, etc., sont des textes à valeur infra-réglementaire qui ne sont pas opposables. Oui. Et certains de ces textes, ainsi les recommandations de la HAS, par exemple, sont des textes qu'on appelle en droit mou, qui en cas de contentieux, selon les juges, selon les magistrats, peuvent être considérés comme étant opposables. C'est là qu'on est sur un terrain terriblement piégé, en fait. Parce que si l'on va sur une charte ou un référentiel qui est adopté par consensus par ces messieurs dames, les ARS et le ministère de la Santé trouvent ça intéressant. Ils finissent par le publier à l'intérieur d'une recommandation, je ne sais pas. C'est là que ça devient opposable. C'est là que graduellement ça se fait. Et là, il y a un véritable problème pour les droits et libertés des malades. Voilà. Donc, alors, actualité brûlante, en ouverture de la journée, alors le 19 juin, oui, leur journée, c'était le 15 juin. Le 15 juin, c'était donc 24 jours, un peu plus de 3 semaines après le crime du CHU de Reims, du 22 mai.
Oui.
Hein, ce crime affreux, quand même, oui. Qui pose problème, qui pose d'autant plus problème que ce patient très chronique, d'après les coupures de presse, avait émis des protestations qui n'avaient été ni écoutées ni entendues. Mais bon, voilà. Et puis, bon, il y a eu ce crime affreux, ce passage à l'acte, enfin, qui est vraiment... En ouverture de cette journée, le docteur Mathieu Lacambre, président sortant de cette fédération, a évoqué une actualité plutôt brûlante et compliquée autour de ces unités, la nécessité d'aborder la question complexe des soins intensifs de psychiatrie, probablement aujourd'hui particulièrement maltraités. Il y avait urgence à rencontrer, etc., etc. Alors, bon, moi, j'arrête la lecture, on voit bien ce qu'ils veulent, c'est obtenir de l'encadrement. Mais comment se fait-il qu'il y ait une telle mobilisation, voilà, et que là, il y a une autorisation ministérielle, les directions d'hôpitaux, etc., alors que l'on sait maintenant que la prévention sur le terrain, l'avant-hospitalisation en matière psychiatrique, est considérablement malmenée. Tu vois ? Et, alors, on veut bien traiter ce qui est la crise, et on ne veut pas traiter ce qui est avant. Alors que quand on voit, d'après ce que la presse en a dit, cet horrible crime du CHU de Reims, où le 22 mai, un patient très chronique, suivi de très longues dates sur ce ressort, probablement très maltraité, bien qu'il avait déjà tenté de passer aux actes en 2017, assassine au poignard une infirmière, bien, d'ailleurs j'ai fait partie du comité de soutien, hein, parce que je trouve ça particulièrement affreux, et à l'hôpital et au personnel. Et donc on s'aperçoit d'après les coupures de presse que ce patient se plaignait de très longue date de ses conditions d'hospitalisation, qu'il avait été placé en ESAT, en établissement spécialisé d'aide par le travail, que là il avait également des doléances, des réclamations qui n'ont été, semble-t-il, ni écoutées ni entendues. Alors que une gestion hospitalière dûment fonctionnelle aurait voulu que les plaintes et les doléances de ce patient soient entendues par la commission des usagers, par les instances légalement prévues, auprès de la direction de l'hôpital, pour que les malades puissent se faire entendre. Là, rien du tout. Et donc, on en vient à un crime affreux. Et là-dessus, on en vient à une hystérie sécuritaire où l'on se dit comment toujours plus s'enfermer. Et on ne se pose pas la question de la prévention. Eh bien, dis donc, hein. Donc, alors, je reprends quand même cette dépêche. La directrice générale du CHU de Montpellier, Anne Ferrer, a évoqué à son tour plusieurs enjeux forts autour des USIP dans le contexte actuel de la mise en œuvre des réformes des autorisations et du financement en psychiatrie, ou encore de l'encadrement renforcé de l'isolement et de la contention. Maintenant, judiciarisé à titre obligatoire. En matière de financement, enfin au niveau du maintien, en matière de financement, faut-il privilégier une inscription au titre de la dotation populationnelle, autrement dit de la population desservie, de l'activité? Là encore, il est important de s'interroger et de regarder, d'autant plus qu'un référentiel se dessine. Il faut voir comment, dans ce référentiel, généraliser de bonnes pratiques, le faire aboutir dans de bonnes conditions et dans un consensus indispensable. On voit encore la novlangue. Les bonnes pratiques, c'est comment mieux boucler une personne en chambre d'isolement, l'attacher au mieux avec un maximum de sécurité et en sortir avec le moins possible de contentieux. C'est à peu près ça. Trou dans la raquette avec ses ovnis. Après avoir rappelé l'importance des impacts en santé publique de la psychiatrie, la directrice générale adjointe du CHRU de Montpellier, de l'ARS Occitanie, Sophie Albert, a évoqué les USIP, ces ovnis qui existent depuis des années, mais n'ont toujours pas trouvé leur atterrissage réglementaire. Elle s'est dite consciente des interrogations que peut susciter ce type de prise en charge, ni tout à fait une unité pour malades difficiles, ni dédiée aux détenus, mais qui se retrouve parfois avec des malades difficiles détenus. Une prise en charge qui se cherche. Il y a 2 USIP ouvertes dans la région, 3 qui aimeraient ouvrir, et nous savons à l'ARS qu'il y a un trou dans la raquette avec cette absence de textes officiels, a-t-elle poursuivi, soulignant qu'il y avait des différences de conception et de fonctionnement, densité de personnel, degré de restriction de liberté, etc. Il semble oublier que l'isolement et la contention sont réservés à des gens en soins sans consentement, par exemple. Voilà. Et qu'on admet dans les VIP des gens en service libre, hein, tout de même. Voilà. Par exemple, Sophie Albert, donc de l'ARS Occitanie, a son tour évoqué les questionnements sur les financements, expliqué que l'ARS serait précisément attentive, aux évolutions réglementaires éventuelles. Nous avons en tout cas conscience qu'il faut créer une prise en charge la plus fluide possible. Et là, j'élargis au-delà des USIP, il faut trouver la bonne place au bon endroit pour tous dans le parcours de psychiatrie, tout en reconnaissant la complexité du sujet. Elle a assuré que l'ARS essaiera toujours autant que possible de mettre les moyens nécessaires. Elle a enfin souhaité qu'assez vite, on puisse avoir un modèle précis et une réglementation qui, du coup, décrispe certains débats et permette de trouver une réponse à ces patients détenus ou non, en crise mais pas toujours, difficiles ou non, même des patients non difficiles. Non, mais enfin voilà, qui n'ont pas toujours besoin d'être enfermés, mais qui ont besoin d'être soignés. On voit là cette équivalence, cette égalité entre soigné et enfermé, soigné et sous contrainte, soigné et bouclé et sécurisé. Voilà. Personnellement, j'étais mal soigné, je l'avoue.
Ouais. Oui.
Voilà. J'espère qu'il y en aura plein d'autres comme moi, hein, tu vois. Alors, il y a en effet une concordance d'enjeux, réforme déjà citée, l'arrivée de l'option de psychiatrie légale, formant une sorte d'urgence pour les USIP à atterrir. Arrêtez de planer, on va atterrir à coup d'USIP. dans les textes pour continuer à fonctionner, a poursuivi Mathieu Lacambre, mais tout en gardant en tête que chaque USIP a une histoire particulière en fonction des besoins de l'établissement, du projet médical et de la construction de l'unité. C'est à la fois une chance d'être différent, mais aussi un paradoxe qui vient peut-être entraver dans une certaine mesure notre représentativité et notre capacité à communiquer clairement sur notre travail. C'est une source de fantasme ensuite avec l'idée par exemple que les USIP sont des lieux de contrainte et d'enfermement où la question du soin intensif se résume à la contrainte intensive. Nous savons bien que nous, mais encore faut-il le rappeler. Donc si jamais vous êtes placé dans une USIP en droit top fermé, n'imaginez pas que vous êtes dans un endroit top fermé, ce n'est guère qu'un fantasme. Et abritez-vous dans votre délire. Ça ira mieux plus tard. Pratiques et besoins hétérogènes. Avec des présentations sur le panorama historique de la création des USIP, ça fait une quinzaine d'années à peu près, les USIP, à ma connaissance, sont la prolongation des pavillons de soins intensifs antérieurs, des pavillons fermés. Pavillons SAS. Et maintenant, c'est revenu avec la filiarisation. Autrement dit, quand on est admis selon tel profil psychiatrique, donc on passe par un SAS fermé, puis après on est ventilé. C'est la filiarisation qui s'oppose à l'ancienne division purement sectorielle. Autrement dit, vous étiez attribué sur un secteur d'après votre lieu d'habitation. Bien. Donc là, c'est par filière. Donc, après des présentations sur le panorama historique de la création des USIP, les intérêts attendent d'autres services, unités hospitalières spécialement aménagées, UHSA, secteur, envers ces unités, le recours aux soins intensifs, des réflexions de professionnels du CHU de Montpellier sur un référentiel commun ont été présentées. Les équipes ont ensuite pu présenter dans l'après-midi leurs expériences et réflexions en petits groupes sur différentes thématiques, isolement, contention, violence et agressivité au cours de l'hospitalisation, proportion de la contrainte, promotion des libertés individuelles, au dernier point. C'est la cinquième roue du carrosse. Ils auraient dû mettre droit des malades en 8. À l'issue de la journée, Mathieu Lacambre a suggéré de travailler la notion de référentiel commun de façon non menaçante pour les institutions. Bien. Sous forme de charte. Ah oui, bah, une charte, ce n'est pas un référentiel. Hein, déjà. Mais une charte, pour être opposable, pour qu'elle puisse être affichée, a quand même été édictée à travers un arrêté du ministère, hein, quand même. En fait, c'est des choses comme ça, hein. c'est des trucs comme ça qui se discutent, de sorte à arriver progressivement à un texte opposable. Nous pourrions proposer d'élaborer une sorte de charte qui est un document non contraignant, mais reste un engagement sur des bases communes, sur des valeurs partagées. Les valeurs qu'ils partagent, je ne sais pas, moi, ce n'est pas les miennes. A-t-il poursuivi, relevant que des documents de ce type existent déjà dans les USIP historiques. La docteure Clémence Biède, nouvelle présidente de cette fédération, du Vinatier, a ensuite relevé que les échanges ont montré que les pratiques des USIP peuvent être hétérogènes, notamment sur le degré de contrainte, mais aussi des besoins hétérogènes sur le territoire. Par exemple, à Toulouse-Haute-Garonne, il y a besoin d'un SAS avant l'UHSA, l'unité hospitalière spécialement aménagée, l'hôpital psychiatrique prison, ce qui n'est pas finalement le besoin que peut avoir une autre région, a-t-elle signalé. Un recensement des besoins serait nécessaire et les indications pourraient être différentes par région, a-t-elle poursuivi. Nous ne sommes pas obligés de tout labelliser, de tout écrire dans notre charte, mais concevoir sans doute quelque chose de simple, basé sur nos pratiques, avec des éléments qui vont s'adapter aux besoins locaux, aux populations et des autres outils psychiatriques à disposition dans le territoire considéré, a développé Clémence Biède. Dans ces services, il y a une dimension relationnelle forte avec les patients.
Ah oui, c'est moins qu'on puisse dire.
Ah oui, ça s'est rapproché, c'est à coup de lien, ligotage, mise à l'isolement, sécurisation, oui. Dimension relationnelle forte avec les patients, vous apprécierez. Les équipes s'emploient aujourd'hui à limiter les pratiques d'isolement et de contention et à promouvoir les libertés individuelles, ce qui ne veut pas dire qu'il n'y aura pas des restrictions d'accès à certaines choses ou dans la liberté d'aller et venir. D'ici notre prochaine journée à Lyon, dans les 9 prochains mois, nous pourrions ainsi accoucher d'un référentiel, a-t-elle conclu. Elle a alors dessiné une feuille de route, incluant la constitution de sous-groupes de travail sur différents chapitres de ce futur document et des échanges de pratiques inter-équipes et inter-régions au fil de l'année. Ce qu'on voit, c'est que cette multiplication des USIP, c'est l'avenir pour transférer des patients du MD dont on ne veut pas sur leur établissement d'origine, hein, aussi, puisque, bon, voilà, Là, vers des unités un peu moins sécurisées, des petites unités pour malades difficiles, et aller d'unité sécurisée en unité sécurisée. Bien. Mais cela, c'est toujours la même chose. À partir du moment où on prend la question psychiatrique et ces questions pavillonnaires et d'unité sous l'angle de la dangerosité des plus dangereux pour à partir desquels, des plus dangereux des patients, à partir desquels on organise la vie psychiatrique, je crois que c'est tout le soin psychiatrique qui est corrompu.
Ouais, en fait, c'est aussi un domaine, enfin une institution qui est basée sur le risque, en fin de compte, qui est basée sur la prévention du risque.
Oui, mais cette philosophie de la prévention du risque, par exemple, on sait très bien dans les discussions en matière de criminologie et de droit pénal, dans le droit pénal, quoique il y ait une dérive vers là hein, de plus en plus, dans le droit pénal, on ne sanctionne pas une intention, on sanctionne un fait.
Oui.
Bon, tandis qu'en matière psychiatrique, les gens se retrouvent sanctionnés pour le risque.
Exactement.
Bon, or cela, c'est extrêmement grave.
Oui, oui.
Et c'est ce qui fait que, à l'heure actuelle, énormément de gens sont entravés de fait, à coup de médicaments notamment, et à coup de menaces de réinternement, dans leur liberté, dans leur possibilité, dès l'enfance, ou dès l'adolescence, ou dès le jeune âge, à cause de cette philosophie du risque.
Oui.
Bon, et cela, c'est extrêmement grave, et l'on doit protester contre cela, puisque au titre, on sait très bien qu'au titre de cette philosophie du risque, la perspective, c'est la mise sous contrôle psychiatrico-judiciaire ou policière ou tout ce qu'on voudra, de pratiquement la moitié de la population. Bien. En tout cas, toute la population qui n'est pas strictement dans un cadre. Et ça, c'est vraiment d'une gravité réelle et sérieuse. Moi, je renvoie là-dessus sur cette dystopie américaine d'Ira Levin, 1970, Un bonheur insoutenable, 1970, où la population qui est gérée par psychomédicaments est gérée par un ordinateur central, bon, d'ailleurs mis sous les Alpes, voilà. Et donc, une petite partie de cette population refuse tout cela et vit en marge de façon dans des ZAD, voilà, etc. Et ces gens-là sont appelés les incurables.
Oui.
Donc, si maintenant, le seul sort qui nous est réservé à nous autres qui ne sommes pas d'accord, quelque obédience qu'on soit, hein, voilà, on n'est pas forcé d'être gauche, gauchiste, etc., etc., quand on n'est pas d'accord avec tout cela, avec ce système complètement abracadabra et inhumain, de fuir l'intégration, de fuir la société organisée. Ben écoutez, moi je trouve que c'est vraiment très grave. C'est ce qui me fait dire qu'on est typiquement dans une période qui s'est ouverte, où plus que jamais les réseaux alternatifs sont non seulement nécessaires, mais obligatoires. C'est carrément obligatoire. Si, moi j'ai pas fondé de famille, mais pour des gens qui ont fondé une famille, fondé un foyer, être dans la perspective que l'enfant qu'on a mis au monde, qui est scolarisé, va pouvoir, pour un oui ou pour un non, être mis sous traitement psychiatrique, puis envoyé sur une filière handicap et ne jamais en sortir, je pense que ça fait mal.
Oui. Alors de cette heure, donc, de l'entonnoir, on a pu aussi voir peut-être que la psychiatrie est une institution qui ne tient pas à s'adoucir, mais au contraire à se renforcer dans un sens sécuritaire et coercitif, et pérenniser ces méthodes-là.
Oui, de plus en plus. De plus en plus, et c'est ce qui fait que la bronca des professionnels du soin, par exemple la vague de grandes démissions qu'on connaît, hein, ou de refus d'embauche, les postes ne sont pas pourvus, est totalement nécessaire. Et c'est ce qui fait qu'on ne peut qu'être songeur et très, comment dire, très en attente de savoir ce que ça peut devenir, de voir le développement des nouveaux métiers sur la pérédance.
Oui.
J'ai appris hier, dernière information, que sur Saint-Maurice, les pérédants, les médiateurs de santé père, hein, pas les pérédants, les médiateurs de santé père dûment embauchés et ayant passé leur formation vont passer sous CDI, contrat à durée indéterminée, avec un salaire aligné sur la catégorie A. de la fonction publique hospitalière, donc avec une paye majorée. Or, après, si cela laisse entendre, c'est à quel moment on va demander à ces gens-là de s'aligner sur la mission répressive de la psychiatrie hospitalière publique. Voilà.
D'ailleurs, dans le médiateur de santé père, il y a le premier mot qui est médiateur, c'est-à-dire en fait qui est un intermédiaire entre la partie soignante et la partie entre guillemets soignée ou malade. Et donc oui. C'est cet intermédiaire-là qui est un peu donc un petit peu en porte-à-faux, dans une position un peu instable, on peut dire.
On est pour l'instant dans une période intermédiaire. Parce que pour l'instant, on est une période intermédiaire. Les périodes intermédiaires sont riches de possibilités, hein. Mais à un moment donné, ça se referme.
Voilà. Eh bien, merci André pour cette chronique et nous vous disons à la semaine prochaine. C'était l'Entonnoir, émission critique de la psychiatrie. Et nous allons donner donc l'antenne à l'émission Un rayon de soleil de Radio Libertaire Méditerranée. Au revoir.